Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Monnaie Libre. Eh bien, on va recevoir aujourd'hui un nouvel intervenant, un chercheur, un ingénieur, docteur en informatique, hein, qui connaît les problèmes de la technique, qui réfléchit sur le problème de la monnaie, mais aussi sur le problème des prix, et sur le problème des, y compris des biens immatériels, on va voir ça, qu'on avait déjà vu un peu avec le podcast qu'on avait fait Monnaie Libre avec Ploum, notre blogueur belge préféré, qui lui aussi se pose ce type de questions, avec raison d'ailleurs. Et voilà, donc c'est aujourd'hui ce chercheur, cet ingénieur aussi informaticien, il ne fait pas que chercher, il fait aussi des programmes. Eh bien c'est Laurent Fournier, bonjour Laurent.
Bonjour Stéphane.
Alors Laurent, tu es de Toulouse, hein, c'est ça?
Oui.
Alors Laurent, tu es actif, hein, depuis quelques années maintenant, on peut dire, hein, d'au moins 2 ans. Sur le sujet monétaire, le sujet économique, avec alors un premier sujet qu'on abordera un peu plus tard, parce qu'il y a un sujet un peu plus, je dirais, d'actualité, qui s'appelait Cup Foundation, et qui est une tentative de modélisation d'un modèle de prix, on va voir, mais aussi associé à un modèle de monnaie complémentaire. Alors on éclaircira ce sujet. Mais cette réflexion t'a amené plus récemment, et ça c'est qu'on va voir dans une première partie, avant d'aborder ce sujet de Cup Foundation, un nouveau sujet donc, qui est l'euro-franc. Alors l'euro-franc dont tu proposes un lancement pour 2015, alors tu vas nous parler de ce sujet, l'euro-franc. Voilà, alors c'est quoi l'euro-franc?
Alors oui, effectivement, l'euro-franc est en fait la plateforme de lancement de la monnaie CAP, dont on parlera un peu plus tard. En fait, cela vient de deux constats. Le premier constat, c'est qu'il faut associer à une monnaie un moyen de paiement, alors numérique, pratique, sécurisé, on va voir comment, via un téléphone portable. Et via ce qu'on appelle une crypto-monnaie, hein, donc en utilisant les bons outils cryptographiques associés. Et le deuxième point, c'est que lors des élections européennes récentes, il y a un parti qui est pas représenté par 2 ou 3% des électeurs, mais qui s'appelle Nouvelle Donne, qui a fait une proposition une proposition de divers économistes, sur le fait de faire une monnaie complémentaire à l'euro d'un montant aux alentours de 150 euros qui serait donné de façon égale à chaque citoyen par mois. Alors, cet euro-franc s'appelle euro-franc parce que les gens concernés sont les habitants de France. Mais c'est pas limité à... citoyen français, il ne faut pas y voir une connotation nationale, voire souverainiste derrière. C'est simplement pour une question de pratique. On va d'abord essayer de faire une monnaie complémentaire, non pas de la taille d'un village ou d'une ville, hein, comme certains celles, mais d'une taille nationale. Alors il y a déjà eu une expérience récente qui est Aurora Coins en Islande. Et ça concernait 330 000 personnes. Et là, l'objectif d'Eurofranc, c'est de faire un peu la même chose concernant environ 50 millions de personnes, c'est-à-dire des gens majeurs. Le fait qu'on aborde ou pas les enfants ou les gens majeurs, c'est un détail. À partir du moment où à chaque identifiant participant à l'opération, la date de naissance, l'année de naissance est connue. Donc on peut très bien faire une distribution qui soit fonction de cette année de naissance et donc décider par la suite, en changeant les règles, que les enfants toucheraient une partie de ces euro-francs aussi. Bon, mais pour l'instant, en 2015, ce qui est prévu, c'est que ça ne concerne que les personnes majeures.
D'accord. Alors, quand tu dis qu'il y aura un changement de règles, ça veut dire que les règles ne sont pas déterminées. Il n'y a pas de... Qui va manipuler ces règles?
Il y a un état règle qui est fixé. Alors, je vais en parler parce qu'il y a une espèce d'autorité que j'appellerais le Parlement Eurofranc, qui va définir, en fait, qui va être garant des méta-règles et qui pourra effectivement modifier certaines règles. Alors, il faut un vote de plus de 50% de la majorité des gens de ce Parlement. ces règles pouvant être justement d'agrandir ce Parlement ou de modifier le montant attribué à chaque citoyen.
Et c'est ce Parlement lui-même qui définit les règles, qui modifie le Parlement ?
Oui, oui.
Alors là, on est dans la récursivité que dénonce Étienne Chouard, c'est-à-dire que normalement, ce n'est pas des représentants de définir
voilà,
les règles.
Effectivement. Donc, mais ce Parlement est constitué de personnes... à la fois, ça dépend, s'il y a beaucoup de candidats, ça sera tirage au sort, s'il n'y a pas beaucoup de candidats, ça sera les motivés. Ouais. Bon.
Ça serait des tirés au sort, et des tirés au sort parmi qui ?
Et bien parmi des gens qui seraient inscrits sur le système. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que chaque citoyen peut créer via son téléphone, en étant déconnecté d'Internet, peut se créer un jeu de clés cryptographiques qui va définir son identité numérique. Il peut même en créer plusieurs. Hein. On peut le faire, c'est équivalent à GPG, on se crée ses clés localement sans rien dire à personne. De la même façon qu'on ferait, qu'on se crée une signature quand un adolescent ouvre un compte et s'invente une signature manuscrite, il ne va pas demander l'autorisation à la Banque de France. Donc là, de la même façon, chaque personne fait ça sur son téléphone, se choisit une passe-phrase et ne la communique à personne.
Oui, ça c'est le procédé de clé qu'on connaît bien sur Monnaie Libre, puisque c'est exactement ce qui est utilisé pour OpenUDC ou Ucoin en fait. Hein. On a une clé unique à soi qui est une clé qui en fait finalement représente son compte en fait. Ça nous permet d'avoir un compte unique dans le système monétaire en fait.
Alors oui, sur l'unicité, ce qui est très important, c'est que à partir du moment où toi, quand tu es tout seul, tu peux te créer autant de clés que tu veux, hein, de couples de clés que tu veux, il faut un mécanisme pour garantir l'unicité, c'est-à-dire attacher l'identité numérique à ton identité physique. Alors c'est ce que j'appelle moi le compte principal, c'est-à-dire il faut que chaque citoyen en choisisse une de ses identités, et dise voilà, ça c'est la principale. Et pour le valider, il y a en gros deux méthodes, soit tu fais des PGP parties, c'est-à-dire on fait un maillage entre citoyens, mais à quel moment, alors c'est un peu, je dis pas que c'est infaisable, mais au niveau national, il faudra décider à partir de quel moment, quel maillage on peut lui faire confiance, parce qu'on pourrait se dire que si des gens se regroupent au sein d'une bande de copains, se certifient entre eux leurs clés et ne se connectent pas au reste, est-ce qu'on leur fait confiance ou pas ? A priori, il ne faudrait pas leur faire confiance.
Alors ça, dans OpenUDC Ucoin, c'est résolu par le fait que, en fait, d'abord, un, le maillage, il n'est pas définitif, il doit se renouveler en permanence, et deux, c'est la théorie des graphes qui dit quel type de personne va donner une signature valide ou pas. C'est-à-dire que c'est le système lui-même qui fait changer les signataires. Par exemple, si on décide qu'il faut renouveler la clé de vérification tous les 6 mois, eh bien tous les 6 mois, il faut se faire signer par d'autres personnes, et c'est pas l'individu lui-même qui choisit par qui il doit être signé. C'est le système qui lui dit, il faudra que tu fasses signer par des personnes qui sont ces personnes-là. Alors, il y en a beaucoup, mais c'est pas lui qui les choisit. C'est la théorie des graphes qui instaure des niveaux de confiance par une accumulation dans le temps en fait. Donc c'est un maillage qui donc est à la fois un renouvelé et deux qui dépend de règles de confiance elles-mêmes. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans une double structure de confiance qui rend le impossible un centre de contrôle, ce qui est toujours préférable. Et puisque tout centre de contrôle va forcément, on le voit dans l'histoire d'ailleurs, hein, abuser de son pouvoir, et qui par ailleurs, par contre, permet à chacun de vérifier que chaque compte est pas vérifié une fois, mais en permanence en fait. Voilà. Donc, et par des individus différents et qui ne sont pas choisis par celui qui va se faire signer.
Oui, oui. Bon, oui. Alors, je connais ce principe. C'est effectivement. Bon, après, il se pose des problèmes de proximité physique. Hein, quand il faut se faire valider par une personne qui est à l'autre bout de la France, c'est pas forcément évident. Alors, moi, j'ai adopté une position qui est peut-être plus classique et moins distribuée, qui est de passer par les mairies. Je m'explique. Il y a en France, dans chaque mairie, il y a un service d'état civil et qui est habilité à délivrer la fonction de validation d'identité. C'est-à-dire que, comme en France, on a un numéro de sécurité sociale qui est a priori unique, je dis a priori parce que l'administration peut éventuellement faire des erreurs, et puis il y avait un petit détail que des personnes nées à 100 ans d'intervalle pouvaient avoir le même numéro de sécurité sociale, donc c'est pour ça qu'on rajoute, nous, l'année de naissance pour faire la distinction. Mais a priori, si on part de ce numéro de sécurité sociale, ce numéro de sécurité sociale, il est haché de telle façon qu'il soit anonymisé, c'est-à-dire qu'il se retrouve en fait sur Internet, le hash se retrouve sur Internet, donc en gros on ne peut pas remonter à votre numéro de sécurité sociale à partir du hash, mais avec le hash on peut savoir si vous avez été enregistré ou pas. Et qui enregistre? C'est ce service de la mairie qui va enregistrer entre 1000 et 2000 personnes. C'est quelque chose qu'il est totalement habilité à faire. Il faut simplement, le processus prend une à trois minutes. La personne vérifie que vous êtes bien en face, vous avez votre pièce d'identité, vous êtes bien la bonne personne, et valide que vous êtes possesseur du téléphone, et par un petit exercice, il vérifie que vous êtes possesseur du mot de passe qui est associé au numéro d'ID du téléphone. Et à ce moment-là, il va signer, disons, avec la signature de la mairie, signature électronique, hein, je parle, hein, il va signer votre compte, donc vous donnez le certificat pour valider votre compte principal.
Alors d'accord, mais alors, ce qui est très étonnant dans cette démarche, si tu veux, c'est que, enfin, pour nous en tout cas, hein, c'est de comprendre le fait que, bon, pourquoi pas, hein, ta méthode, on peut la critiquer ou pas, mais là, c'est pas mon sujet, c'est de dire, mais comment tu peux parler comme ça au nom des mairies qui seraient, qui vont adopter éventuellement, tu es en train d'en parler comme si les mairies allaient adopter ce système. C'est-à-dire, on comprend pas bien de quel positionnement tu peux présupposer que le système administratif tel qu'il existe serait partie prenante de ce système. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce qu'on se demande, est-ce que tu es mandaté par le système pour le faire, ou est-ce que tu le fais de façon indépendante et en proposant au système administratif de l'adopter, ou est-ce que le système administratif cautionne ta démarche? C'est ça, on comprend pas bien en fait.
Alors je vais expliquer qu'il y a en fait deux grandes motivations pour les mairies à le faire. Non, je suis totalement indépendant des mairies, hein. Je suis pas du tout élu dans aucune mairie, et ni lié à aucun pouvoir politique. Les deux motivations pour les mairies de le faire, c'est la première, c'est de favoriser le commerce local. Pourquoi? Parce que cette monnaie, c'est une monnaie complémentaire à l'euro. Donc c'est quelque chose qui, un, ne peut pas sortir de France, c'est-à-dire on ne peut pas acheter des biens en Allemagne, par exemple, avec des euros francs. Et c'est quelque chose, je ne l'ai pas précisé, c'était tellement évident, mais qui respecte la symétrie spatiale de la TRM, c'est-à-dire qu'on attribue la même quantité de monnaie à chaque citoyen tous les mois. Hein. Et donc, c'est un surplus, comme l'expliquent des économistes, c'est un surplus de pouvoir d'achat qui est donné, carrément donné à chacun en plus. Mais contrairement à ce que demandent des partisans du revenu de base, qui demandent une remise à plat de toutes les prestations familiales, sociales et de toute la progressivité du système impôt-aide, là, on ne... Il n'y a aucune condition, aucune qui est posée sur ce système, on ne change rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'améliorer, hein. Je ne dis pas ça, mais vous avez des économistes comme Piketty qui essayent de l'améliorer. Là, moi, je travaille sur quelque chose de beaucoup plus modeste, qui est de dire on rajoute 150 euros à chacun, à euro franc, et avec ça, on peut s'acheter à la supérette du coin, au boulanger, à l'artisan, à la MAP. On peut par exemple acheter des légumes bio, de faire marcher les artisans du coin. Donc pour les maires, c'est une incitation à faire marcher l'économie locale.
Alors je comprends tout à fait, mais alors forcément je bondis, tu vois, parce que sur Monnaie Libre on est pointu. Oui. Parce que dans ton discours, quand tu présentes cette monnaie, en fait c'est une monnaie numérique supplémentaire, un peu comme peut l'être le Bitcoin, comme peut l'être n'importe laquelle, bon, sauf qu'elle elle est réservée.
Parce que Bitcoin n'est pas une répartition spatiale.
Oui, oui, bien sûr. Alors ça, tu fais bien. Effectivement, tu fais bien le noter. Tu as parfaitement compris les principes de la symétrie spatial au moins, ça c'est sûr. Et donc, et tout à fait, non, mais laisse-moi aller au bout du truc, c'est-à-dire que bon, tu rajoutes, tu proposes une monnaie numérique, c'est très bien, tu supposes que les mairies seraient celles qui pourraient valider les trucs en supposant qu'elles l'accepteraient par motivation, tu expliques pourquoi, bon très bien.
J'ai pas expliqué le deuxième point. Hein,
alors oui, d'accord. Et après, le problème qui se pose au-delà de ça, hein, je parle pas encore de symétrie temporelle, on y viendra, parce qu'on parlera de monnaie libre plus tard dans la deuxième partie. Pour l'instant, parlons de ton système. Mais forcément, moi, ce qui me fait bondir, c'est de l'appeler de facto euro-franc en disant qu'on donne un pouvoir d'achat en euros. Mais qu'est-ce qui te permet... Enfin, le problème, c'est que tu risques de te retrouver en porte-à-faux d'un point de vue même juridique, puisque tu donnes un nom à ta monnaie euro-franc qui laisse supposer, puisque tu laisses penser à celui qui écoute que cette monnaie pourrait valoir en euros. Mais en fait... Prenons une monnaie comme le Bitcoin, qui n'a pas toutes les symétries, etc., mais qu'une monnaie libre au point de vue au moins du code logiciel qui l'a bâti, et librement adoptée par ses membres. Après, elle a des problèmes de non-symétrie humaine, ça c'est un autre problème. Mais son taux de change dans une monnaie ne se décrète pas. C'est-à-dire que c'est parce que les gens l'ont... Non, c'est parce que les Bitcoiners l'ont adopté, progressivement, au début, son taux évolue dans le temps, non pas parce qu'il est fixé par qui que ce soit ou décrété au départ. Il y a un marché d'échange de ce Bitcoin qui est adopté par des gens qui acceptent de l'utiliser pour leurs biens ou services ou pour l'échanger contre d'autres monnaies ou contre d'autres types de biens, peu importe. Enfin, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. Et s'établit une force d'interaction entre le dollar et le bitcoin, ou entre l'euro et le bitcoin, qui lui donne un prix moyen qu'on peut observer sur les places de marché où ils s'échangent. Mais il n'est pas fixé a priori. C'est le marché qui en détermine sa valeur.
C'est que de la spéculation à ce niveau-là. Hein.
Donc, mais oui, mais comme toute chose.
Sur une place de marché en bitcoin ou en Litecoin ou en...
Oui.
Donc c'est que parce que c'est basé que sur deux critères, qui est le critère de la curiosité vis-à-vis d'un algorithme cryptographique, et puis sur la capacité à effectivement créer des nombres en, disons, une quantité numérique à valeur finie en 2030 ou je sais pas.
Oui, mais ça c'est comme toute chose, Laurent. Si je crée si je fais un dessin sur une feuille de papier, a priori personne ne sait si je serai un grand peintre connu dans 50 ans ou pas, je le propose sur une place de marché, quelqu'un peut m'en offrir 10 centimes, un autre 50 euros et je le vendrai au moment où je trouverai qu'une offre correspond à ce que j'ai envie de lui donner. Donc tout est spéculation de ce point de vue là c'est une interaction entre celui qui propose et celui qui veut acheter qui va faire qu'à un moment donné un prix de transaction a lieu ou n'a pas lieu. Donc c'est vrai de tout bien, ça c'est pas quelque chose qui se décrète, hein.
C'est là où je diffère un peu d'une vision, que je qualifierais de un peu anglo-saxonne de la monnaie, c'est que quand vous allez sur tous les forums Bitcoin ou équivalent, on a vraiment l'impression que oui, la monnaie serait un bien comme un autre, et donc vous avez des monnaies, par exemple, où ils se sont, je sais plus comment elles s'appellent, ils se sont regroupés à 73 copains, et ils ont dit on crée la masse monétaire, on se la répartit entre 73 copains, et on monte un site web qui est très alléchant, on fait croire aux néophytes que cette monnaie, elle a une petite... on a amélioré un petit truc, on a enlevé le minage et on a remplacé ça par un truc soi-disant plus sympa, et on va vendre ces actions comme des actions, hein, comme d'une boîte, on va vendre cette monnaie, cette masse monétaire créée de... Mais c'est du blanchiment hyper facile et c'est de l'escroquerie, hein, c'est total. Alors, ce que je veux dire, c'est que quand on parle monnaie, pour moi, c'est pas un bien comme un autre, c'est un moyen avant tout d'échange, et c'est pas un moyen de valeur. Dans l'histoire, on a été obligé de passer par l'or, des métaux précieux, parce que c'était le seul moyen, on n'avait pas de grand registre mondial, pour de grands livres pour stocker toutes les transactions. Vous pouvez très bien imaginer une monnaie au sein d'un village, avec un espèce de chef du village qui noterait que Toto doit tant de machin à Tata, qui lui doit tant de machin, et sans s'échanger aucun métal précieux. Bon, avant Internet, cette chose était impossible. On se rend compte qu'avec Internet, on peut avoir un grand livre sur le net, alors qui n'est pas dans un cloud privé, hein, qui est sur une distributed hashtable, hein, qui est accessible publiquement à tout le monde et distribué sur des nœuds en peer-to-peer, mais sur le net. Et avec ce grand livre ouvert, tu peux avoir t'échanger des transactions. C'est un peu ce que fait Ripple, mais il y a des choses que j'ai pas trop compris dans la monnaie Ripple qui me dérange, parce qu'il y a quand même une masse monétaire créée. Là où je veux en venir, c'est que Eurofranc ne veut pas créer une valeur d'Eurofranc. Il veut être juste un alias de l'euro. Donc effectivement, il y a une parité qui est imposée dès le départ de 1 Eurofranc égale 1 euro.
Mais par qui ?
Et elle est maintenue.
Mais par qui ?
Elle est maintenue par... elle est imposée, c'est-à-dire que un commerçant a l'obligation de vendre en euros, hein, ça, il peut pas refuser un bien de le vendre de ne pas le vendre en euros, mais il peut autoriser de le vendre en euros francs, et s'il le vend en euros francs, il a l'obligation de ne pas faire de double étiquetage, c'est-à-dire de vendre un euro égal un euro franc.
Mais qui va imposer ça? Je comprends pas. S'il le fait pas, qu'est-ce qui va se passer?
Eh ben, c'est d'après les gens de Nouvelle Donne, c'est quelque chose qui peut être faisable. Alors, je sais pas si c'est imposable, mais c'est en tout cas la règle qu'il convient de suivre. Alors.
Ouais, mais c'est un vœu pieux. Tu comprends bien que ton affaire est un pur vœu pieux. Je veux dire, à moins que tu supposes.
Nouvelle Donne l'affirmer, bon, ils ont plus de compétences juridiques que moi. Il semblerait que d'imposer une monnaie complémentaire à égalité, ben c'est ce que font les selles, hein. Les selles, quand ils disent un sol violette, c'est équivalent à un euro.
Ah non, tu peux pas. Ah non, alors faut que tu écoutes les podcasts Monnaie Libre sur le sol, il y en a deux, avec Frédéric Bosquet et avec Joachim Lebrun. Où justement, attention, parce que juridiquement, en fait, il est condamné de prétendre qu'une monnaie est indexée sur la monnaie dominante. Sauf s'il y a un banquier qui est dans l'affaire et qui demande effectivement que des euros soient mis en gage de la monnaie qui se prétend pouvoir s'échanger contre des euros. Et sans banquier qui contrôle ça, la monnaie fait office de poursuite judiciaire. Par contre, les selles qui, eux, ne sont pas créées comme le sol violette, qui, eux, sont contrôlées par les mairies, justement, éditées, mais contre des euros. Hein. C'est-à-dire que pour avoir des sols violettes, il faut donner des euros. Ils ne sont pas créés ex nihilo, justement. Alors que, justement, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui, elle, ne prédit pas au départ son taux de change. Si elle ne dit pas, voilà, c'est juste une monnaie qui vaut des piafs, des bitcoins, ou n'importe quoi. Et on n'assure aucun gage sur aucune autre monnaie. Il n'y a rien d'imposer ni de vérifiable, etc. Eh bien, cette monnaie, donc, c'est une valeur comme une autre, une valeur économique comme une autre. C'est pas du tout une escroquerie. J'ai le droit de créer toute valeur économique que je veux demain, un livre, et le proposer à 60 euros pièce ou à 10 euros pièce, que les gens l'achètent ou pas. C'est là où la liberté se fait. C'est-à-dire que si mon prix est trop élevé ou que le livre est inintéressant, j'aurai pas d'acheteurs. S'il est très intéressant, bien que le prix soit élevé, j'aurai des acheteurs. Donc, c'est pareil pour le Bitcoin. Le Bitcoin, les gens l'adoptent, et parce que justement ils y trouvent un intérêt, s'établit un marché, y compris de ceux qui en veulent, parce qu'ils y trouvent un intérêt et qu'ils ont fini par adopter une certaine confiance dessus. Après, il a d'autres problèmes à plus long terme que la TRM va pouvoir démontrer, parce qu'on est dans un référentiel plus vaste. Mais à court terme, il n'y a aucun problème, et au contraire, le Bitcoin valide le fait qu'une monnaie, justement, n'est qu'un pur nombre numérique et que sa valeur d'échange ne s'impose pas. Donc, si tu veux, le problème est là, c'est que en l'appelant euro franc, tu fais supposer qu'il y a une contrepartie en euros. Donc, à contrario, je peux donc, si j'ai un bien qui se vendrait donc de façon équivalente en euros francs, eh bien, je peux l'acheter en euros francs contre des euros. Donc, ce bien-là étant lui aussi vendable en euros, je peux récupérer la même somme d'euros par une transaction intermédiaire. En gros, quelqu'un qui me vendrait je ne vais pas parler d'or pour pas bloquer là-dessus, mais quelqu'un me vendrait un kilo de cuivre. Chez un drugstore, j'achète un kilo de cuivre, il accepte de le vendre en euros francs, et derrière, je le revends ce même kilo de cuivre en euros, et j'ai bien obtenu des euros contre des euros francs. Donc il y a bien un gage qui, à un moment donné, se fait. Mais le commerçant ne le fera pas s'il ne s'y retrouve pas pour acheter son stock. Parce que le commerçant, il vend et il renouvelle son stock. Donc si derrière, il n'y a pas une imposition du taux de change qui est présenté comme tel, si c'est pas imposé, donc du coup ça devient une monnaie étatique, mais la monnaie étatique aujourd'hui en France, c'est l'euro. Et les sols violettes sont gagés sur des euros qui sont effectivement mis dans des comptes en banque. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que sinon on est dans l'illégalité.
Alors, je me réfère un peu à l'étude menée par Nouvelle Donne, qui effectivement t'as pas les euros francs créés, il n'y a pas d'obligation dans un premier temps de les convertir en euros. Donc parce que effectivement ils sont pas admis par la Banque de France et la BCE. Je dis ça dans un premier temps. Cela veut dire que ça pose effectivement un problème pour payer des fournisseurs qui seraient hors de cette zone. Donc l'idée, c'est de favoriser, c'est pour ça que les premiers adopteurs de cette monnaie seraient des commerçants ou des artisans qui ont leurs fournisseurs aussi en France. Donc il y a un effet local qui est favorisé. Et ce que disait Nouvelle Donne, c'est que dans un second temps, une fois que la Banque de France et la BCE, plutôt la Banque de France aurait accepté la convertibilité en euros, il pourrait y avoir une conversion euro-franc vers euro, moyennant une petite taxe au trésor public. Voilà. Mais donc il n'y a pas impossibilité, même pour quelqu'un qui aurait des fournisseurs à l'étranger, disons en Europe mais en euros, de s'y retrouver. Mais pour des gens qui n'ont que des fournisseurs en France, ou local, ou régional par exemple, c'est tout bénef. Pourquoi je dis c'est tout bénef ? Parce que en 2015, ce qui est prévu, c'est qu'en 2015, il n'y ait pas de, pour la première année de mise en place, qu'il n'y ait pas de TVA sur les produits en euro-franc. C'est-à-dire, en fait, le commerçant, il a intérêt à vendre un produit en euro-franc qu'en euro. Mais bien sûr, en respectant le seul étiquetage, hein, faut qu'il y ait équivalence euro-franc-euro. Et en 2016, ce qui est prévu, c'est à partir du moment où la Banque de France validerait la correspondance, la convertibilité en euro-franc, d'euro-franc vers euro, que, en contrepartie, on accepte de verser une TVA.
Voilà. Mais on est en train de dire que la Banque de France serait caution de la création de cet euro-franc ?
À terme, oui.
Mais qu'est-ce que ça veut dire à terme ? Je comprends pas.
Eh bien, à terme, ça veut dire que le temps que...
Non, mais
la structure qui montre que l'on peut avoir une monnaie électronique au niveau d'un pays, c'est pas si simple que ça. Il y a déjà l'Islande qui s'y est frottée avec des quelques attaques qui ont eu lieu. Donc mettre ça au niveau de 50 millions de personnes, c'est pas évident, sans faire appel à une administration hyper lourde, sans faire appel et de façon totalement en utilisant des moyens modernes de crypto. À terme, donc ce qui est prévu en janvier 2015 de ne verser que 1 euro franc.
Mais prévu par chacun, prévu par qui ? Je comprends pas ça. Quand tu dis ce qui est prévu, mais prévu par qui ? Qui a la légitimité de parler au nom de la Banque de France dans cette affaire ?
C'est ça que je crois. C'est pour ça qu'au départ, la Banque de France, c'est pas la Banque de France qui parle, c'est l'association Eurofranc. Donc il grossit avec des membres qui arrivent régulièrement. L'idée, c'est de ne commencer très très modestement à donner 1 euro franc en début 2015.
Mais vous avez le droit d'utiliser la marque déposée euro ? C'est ça. Non, mais ça me fait flipper votre affaire là, parce que vous êtes en train de... Vous êtes en train... C'est ça que je comprends pas, parce que qui a derrière ? Parce que l'euro, c'est une marque déposée, on peut pas appeler euro comme ça ce qu'on veut. Je veux dire, c'est pas... vous pourriez être accusé de contrefaçon, donc le problème est là, c'est vous avez qui derrière ? C'est ça que je comprends pas, moi. Comment... De quelle autorité vous pouvez, comme ça, appeler votre monnaie numérique, bon, qui a toutes les caractéristiques qu'on veut, du terme d'une marque déposée. Et donc, la question, c'est ce qui se pose, c'est qui vous avez derrière, comme ça, pour vous permettre d'utiliser une marque déposée euro, qui suppose tout un tas de liens avec l'État, avec les banques, avec un système dominant qui gère une monnaie qui n'est pas libre, et qui qui va voir arriver une monnaie qui se nomme Eurofranc comme ça, d'une petite association de gens qui veulent développer ça. Parce que ça part de mon sentiment, hein, je dis pas que c'est le problème à ce niveau-là, mais moi ce qui m'étonne, c'est cette affirmation de liens comme ça avec l'euro, posé comme ça, a priori, en disant il y a des choses prévues, mais par qui, quoi ?
Alors, je fais un peu confiance aux juristes et économistes de Nouvelle Donne. Bon, je dois en discuter avec eux, et effectivement, il y a peut-être des problèmes qui vont se poser. Il semblerait que dans un mot, on peut utiliser euro. À partir du moment où il n'y a pas le tiret, c'est pas euro-franc, mais donc c'est euro-franc comme un nouveau mot, ça devrait pas poser de problème sur l'aspect nom de la monnaie. Après, je suis pas affirmatif, hein, là, et je suis pas compétent là-dedans, donc c'est effectivement à vérifier. Après, sur la parité, c'est effectivement, mais une monnaie, c'est une question de confiance la population, dans la population. Donc, on considère que, peut-être qu'on va se planter, hein, mais on pense que en donnant confiance aux gens, aux acteurs économiques, c'est-à-dire aux commerçants, l'euro franc est quelque chose qui est totalement démocratique et qui vient de bons sentiments, et qu'on peut avoir des audits dessus, qu'on peut vérifier tout un tas de choses, et on est ouvert à tout audit, que la convertibilité, mais qu'on impose pour donner un repère aux personnes, que 1 euro égale 1 euro franc, et le fait de donner une ligne directrice fait que les gens vont partir sur cette idée et donc vont savoir qu'il est interdit d'avoir un double étiquetage. Et c'est pour éviter ce qui se passe, la spéculation qu'il y a sur toutes les autres monnaies, à partir du moment où le taux est non fixé. Et le problème, c'est qu'une monnaie, une crypto-monnaie qui ne fixe pas son taux, sera agressée par les spéculateurs. On voit ce qui se passe pour Bitcoin. C'est pour ça que je suis complètement à l'opposé de certaines PME qui, comme Paymium, qui vantent le Bitcoin comme moyen de paiement pour Monsieur Tout le Monde pour acheter son pain. Or, vu la fluctuation du Bitcoin, justement, c'est pas fait pour acheter son pain, parce que pour acheter son pain, il faut une monnaie hyper stable. Et la monnaie hyper stable qui existe, actuellement, c'est l'euro.
Ah, mais non, mais l'euro, attends, je t'arrête tout de suite, Laurent. Toi, t'es un scientifique, tu sais bien que la stabilité, ça se décrète pas. Tu ne peux décréter une stabilité entre deux phénomènes que l'un par rapport à l'autre. Donc dire qu'une monnaie est stable, ça veut rien dire. En fait, l'euro, il n'y a pas plus spéculatif que l'euro. Par exemple, aujourd'hui, les jeunes ingénieurs qui sont formés de façon extrêmement plus pointue que les ingénieurs d'il y a 20 ans gagnent en fait, en réalité, 2 à 3 fois moins que ce qu'ils touchaient il y a 20 ans. Donc en fait, le prix du travail payé pour des choses plus évoluées aujourd'hui qui devraient valoir, qu'on pourrait considérer comme pouvant valoir plus cher, est en fait payé moins. Donc en fait, l'euro est extrêmement fluctuant. Il est plus fort qu'il ne pouvait l'être à l'époque, ou il est plus faible, en relation avec des biens économiques ou des aspirations à une certaine liberté économique. Parce qu'on ne peut pas non plus comparer les biens dans les époques. Ça, c'est le problème de la symétrie temporelle. C'est-à-dire prétendre qu'il y a une stabilité d'un bien économique par rapport à un autre, c'est oublier que l'ensemble de tous les biens économiques change du tout au tout entre deux époques. Les biens économiques de 1929 sont pas comparables aux biens économiques de 2014, et le pouvoir d'achat du dollar en biens de 1929 n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat du dollar d'aujourd'hui, puisque les biens sont pas les mêmes et puis les revenus sont pas les mêmes. Donc il faut regarder ça en termes de relations, surtout entre les hommes vivants à telle époque et aux époques d'aujourd'hui, en termes de disponibilité de l'outil d'échange par personne. Ça, c'est tu l'as cité dans la symétrie spatiale, mais qu'est-ce que tu fais de la symétrie temporelle à ce niveau-là?
Alors, je pense qu'on se met pas sur la même position d'échelle. Quand je parle de stabilité, je ne parle pas stabilité absolue. Et je ne parle pas stabilité absolue ou stabilité relative, mais à une échelle de plusieurs centaines d'années. Là, je parle de stabilité en jours ou en heures. Quand j'ai mon salaire qui est versé tous les mois, je sais que j'achète en janvier ou en février ou en mars, je ne sais pas, n'importe quoi, je sais que je le paierai à peu près le même prix.
Oui, mais qui aujourd'hui a un salaire fixe? Ça n'existe pas, ça.
Non, mais si, relativement fixe.
Ah non, moi je connais autour de moi personne qui a un salaire fixe. Alors je ne sais pas s'il y en reste des gens qui ont des salaires fixes, mais moi j'en connais pas. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que les salaires soient fixes. On a des périodes où on gagne rien pendant 6 mois, 1 an, et puis des périodes où on peut gagner beaucoup pendant 3 mois, et donc il n'y a pas du tout de salaire fixe. Donc par rapport à ça, on ne peut pas se baser non plus sur le salaire tel qu'il était communément admis il y a encore 15 ans pour qualifier la stabilité d'une monnaie. Ça n'a pas de sens.
Non, excuse-moi, mais si, il y a quand même une majorité de gens qui touchent des revenus assez fixes.
Mais une majorité n'a jamais été une légitimité.
Mais j'ai pas dit ça, mais je fais un constat. Je fais un constat que on reçoit d'un côté une somme, un revenu qui est relativement... Avec ce revenu, qu'il soit à la rigueur, qu'il soit fixe ou pas, c'est pas le problème. C'est que le bien, la valeur des choses est relativement fixe, hein, entre qui est une légère inflation ou une légère déflation. Bon, il n'empêche que le...
Ah non, c'est pas vrai. Non, je peux pas te laisser dire ça, c'est faux. Et par ailleurs, si tu dis
bah,
que le...
Tu... Bitcoin,
mais non, je peux calculer, c'est faux, là aussi, je peux calculer. Je peux dire ma baguette de pain, je suis boulanger, et je dis ma baguette de pain, elle vaut 10 centimes de Bitcoin. Ah bah, tu vas me dire, elle est stable, puisque le gars, il garde ce prix pendant un an, et c'est 10 centimes de Bitcoin. Sauf alors, que le prix de l'euro en Bitcoin varie, donc qui c'est qui varie? C'est le Bitcoin par rapport à l'euro ou c'est l'euro par rapport au Bitcoin? Tu sais bien qu'en relativité, tu peux pas prendre de point de vue centralisé depuis un référentiel pour dire ce référentiel-là, il est stable et pas l'autre, ça n'a pas de sens.
Non mais, alors donne-moi, je parle de la vie réelle là, donne-moi un exemple d'un boulanger qui afficherait son prix en Bitcoin fixe, c'est-à-dire sur une étiquette qui n'est pas changeante, hein, sur un morceau de papier qui dirait ça vaut tant de centimes de Bitcoin.
Ah ben tu l'as, t'as plein de magasins aujourd'hui qui affichent leur prix en Bitcoin et qui les gardent, et c'est justement ça qui contribue à la valeur du Bitcoin. Tu vas chercher sur le net, tu fais une étude historique sur les 3 derniers mois, tu verras que leur prix en Bitcoin il a pas varié. Donc c'est pas... C'est un pur choix de référentiel.
Qui sont de la vie courante, qui sont... écoute, moi j'en vois pas à Toulouse de gens qui affichent leur prix en Bitcoin avec... généralement, ils mettent un taux variable et qui change au jour le jour parce que ils ont une...
Ah ben, non mais tu peux pas comparer une monnaie qui vient de se créer et qui commence à être connue depuis 2 ans... même si elle a des propriétés que, par ailleurs, on dénonce pour les raisons de symétrie, mais peu importe, c'est un bon exemple, justement, de travail, de réflexion. Tu peux pas comparer une monnaie qui s'inscrit depuis 2 ans avec une monnaie qui est la succession d'une monnaie qui, elle-même, existe depuis 400 ans. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est...
Ce que veulent les gens, c'est une stabilité.
Ah, mais ce qu'ils veulent, ouais, mais ce qu'ils veulent et ce qui est possible de faire... Oui, mais entre ce que veulent les gens et ce qu'il est possible de faire, il y a un gap. Je veux dire, il faut prendre le temps de mettre en place ces choses. Si les gens veulent aller sur Mars, il y a quand même tout un tas de choses avant de pouvoir y aller. Et ça suppose effectivement de mettre en place un pas de tir, une fusée et tout un programme pour aller sur Mars. Et ça va pas se faire en 3 jours. On est d'accord. Mais Laurent, avant que tu nous donnes la réponse à cette question, on va d'abord faire une pause musicale dans Monnaie Libre avec une musique, bien sûr, sous licence libre. Ça sera Triade avec Breathe. À tout de suite. Thank you. Nous voici donc de retour dans Monnaie Libre après cet intermède musical. Eh bien, on va avoir tout de suite maintenant la réponse de Laurent à notre question. À toi, Laurent.
Mais alors, je reviens sur l'argument initial qui est quel est le problème de fixer une parité avec la monnaie dite officielle pour se servir de cette stabilité. Alors, effectivement, on titille et on fait intervenir dans la boucle, en gros, la BCE. En gros, la BCE va dire, tiens, c'est quoi ce petit rigolo qui veut indexer une monnaie complémentaire en France sur l'euro. Là, ce que l'on espère, nous, c'est que la masse monétaire créée soit relativement faible pour que la BCE ne mette pas une armée pour aller zigouiller les gens en l'association Eurofranc et tu vois.
Bon courage. Mais alors, le problème que tu cites là, c'est exactement ce qu'a résolu. Enfin. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau des sols. C'est-à-dire que les sols en France développés dans les mairies, à Toulouse, dans le Boulonnais, là on l'a vu avec Joachim ou ailleurs, bon peu importe, sont entièrement contrôlés par des banquiers. Je veux dire, il est hors de question que y ait le terme euro qui soit employé quelque part en termes de parité ou autre chose soit, sans que le système bancaire euro s'en occupe en termes de contrôle. Mais ceci dit, moi j'ai envie de revenir, je crois qu'on a compris le principe. Hein. Je comprends ta démarche et je vois bien l'idée, simplement. C'est une discussion que j'ai eue avec Yolande Bresson aussi. C'est qu'à un moment donné, vous avez la croyance qu'il y a une certaine stabilité dans l'économie. Et en fait, mais vous dites la monnaie est stable parce que la monnaie est stable, en gros. C'est-à-dire que comme le prix de la baguette vaut 1 euro, il est stable. Mais non, il n'est pas stable parce que tout le reste bouge. Donc, du coup, il n'est pas plus stable qu'autre chose. Ça dépend du référentiel dans lequel je me place. Tu sais très bien que ce n'est pas ni la Terre qui tourne autour du Soleil, ni le Soleil autour de la Terre. C'est là où je me place, je vois les choses bouger. Et après, si je veux voir comment les choses fonctionnent, il y a des référentiels plus efficaces pour montrer. Mais in fine, les deux tournent autour de la galaxie. Hein, donc,
le citoyen, c'est qu'avec tous les mois, il peut à peu près s'acheter la même quantité de choses.
Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Je réfute cette assertion. Non, c'est faux. Je sais pas dans quelle référentiel tu vis, mais dans le mien, c'est totalement faux. Il y a des choses que le mois dernier qui valent un certain prix, aujourd'hui qui en valent d'autres. Il y a certaines choses que je peux acheter en plus grande quantité et d'autres en moins grande quantité. Et ça dépend de. Y compris de mes revenus, parce que si je compte par rapport à mes revenus, c'est ce qui est mon référentiel de préférence quand il s'agit de moi, pas quand il s'agit de tous, en plus, il faut que je tienne compte de ce revenu. Donc, je veux dire, comme tout change, eh bien, on peut pas se baser là-dessus, non, c'est pas vrai. Mais je voulais revenir sur un autre point.
Moi, mais tu parles de peut-être 1%, alors que quand on voit les fluctuations du Bitcoin,
Bitcoin, il vient de naître. Donc, je veux dire, ça n'a pas de sens de regarder ces fluctuations alors qu'il vient de naître. C'est évident que toute chose qui naît part de zéro à quelque chose. Et entre zéro et quelque chose, forcément, il y a des fluctuations. Il va se stabiliser après pendant une certaine période et il finira par disparaître parce qu'il n'intègre pas une symétrie temporelle. Mais on parle d'un référentiel à 40 ou 80 ans. Donc il peut très bien être très dynamique d'ici 20 ans et être une valeur de référence tout à fait intéressante, voire même contribuer à la baisse de valeur relative des autres monnaies. Tout à fait, ça me pose aucun problème de le considérer sous cet angle-là. Et le principe de relativité ne me permet pas de préciser qu'un référentiel particulier va définir ce qui est stabilité et ce qui ne l'est pas. Ça n'a pas de sens. La stabilité n'existe qu'entre deux objets que l'on va pouvoir... considérer et que l'on constate au cours du temps et y compris dans l'espace une corrélation qui ne change pas. Bon, mais c'est valable pour très très peu de choses, y compris en physique. Il y a très très peu de choses qui ont cette qualité-là. Il n'y a que la vitesse de la lumière qui ne change pas entre deux observateurs. De ce point de vue-là, on peut la considérer comme stable. Mais à part ça, c'est tout. Il n'y a que ça en fait. Donc il y a très peu de choses en général qui sont stables, justement. Mais c'est le principe de relativité, Laurent. Enfin, je veux dire, t'es un scientifique, tu peux pas comme ça annoncer des choses qui sont validement déclarées comme fausses depuis au moins Galilée, quoi. Je veux dire, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable.
Est-ce que tu me permets d'être un peu plus newtonien
Non, moi je peux pas.
Mais parce que là, on a beaucoup d'expériences autour de nous qui sont pas à la vitesse de la lumière. Et mine de rien, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui vérifient les lois de Newton. Donc, en économie, c'est un peu pareil. Excusez-moi pour le bruit extérieur, là, ça devient.
Non, c'est bon, on l'entend pas.
Bon, Ce que je veux dire, c'est que pour vis-à-vis de l'utilisateur, même si c'est pas une stabilité absolue, même si c'est pas l'idéal, le citoyen moyen a besoin d'une relative, et on le voit bien dans les périodes de crise où il y avait hyperinflation, tout ça, qui était pas des périodes très bien. Ceci dit, il faut une inflation pour... pendant les 30 glorieuses, il y avait une inflation qui était relativement bien, parce qu'elle dissuadait les rentiers. Disons, elle avantageait plutôt les gens qui faisaient marcher l'économie plutôt que ceux qui la freinaient.
Oui, dans les 30 glorieuses, d'un point de vue relativiste, Laurent, qu'est-ce qui se passe dans les 30 glorieuses? Il n'y a pas les plus âgés. Hein, ils sont morts en 14-18, les plus âgés. En 14-18, il y a un massacre énorme de la population, ce qui fait que les gens qui devaient avoir entre 50 et 80 ans dans les années 1950-1980, ces gens-là, ils n'existent pas. Donc forcément, les nouveaux entrants, ils ont un espace vide devant eux surtout, hein, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les strates d'âge sont occupées. Donc on n'est pas dans la même situation en termes surtout démographiques et générationnels. Donc c'est cet aspect temporel-là qui est le plus signifiant. Et pourquoi il y a... en fait, qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, c'est un point de vue parfaitement relatif, puisque si tu comptes ta monnaie en nombre de dividendes universels, eh bien, il n'y a pas d'inflation, hein, puisque le nombre de dividendes universels, et comme le dividende est indexé sur la monnaie, la quantité totale de monnaie en nombre de dividendes, elle ne change pas. L'inflation, c'est une vue de l'esprit, si on compte en quantitatif, mais pas si on compte en relatif, elle n'existe pas. Et par contre, ce qui existe, c'est que dans les monnaies non libres, si on crée beaucoup de monnaie au bénéfice des uns et pas du tout au bénéfice des autres, eh bien forcément, il y a un différentiel de monnaie qui joue en faveur des uns au détriment des autres. Et dans ce cas-là, elle est subie, effectivement, par ceux qui ne participent pas de la création monétaire. Donc, quand on vit une crise financière, elle a des causes. Et ces causes, elles sont dans le passé. Et c'est parce que ces causes sont toujours prégnantes qu'on poursuit les mêmes erreurs produisant les mêmes cycles. C'est ça le truc que nous dit la TRM. Et forcément, moi, ça m'amène à quand même à préciser... Bon, c'est bien parce qu'en même temps, on va parler là du point de vue général que je voulais aborder avec toi. Mais on va préciser ce modèle de gouvernance dont tu parles. Bon, on a vu après les principes. Après, bon, moi, j'ai donné quelques points de vue de critique, forcément, hein, parce que c'est aussi le rôle de Monnaie Libre, hein, c'est d'apporter des éclairages. Je crois qu'on a vu le principe de cette monnaie. Alors, on voit que c'est lié au parti Nouvelle Donne, pourquoi pas, hein, moi ça me pose pas de problème, mais il faut aussi bien le savoir.
Ceci dit, on est indépendant, hein, je veux dire.
T'es indépendant, mais tu dis qu'il faut que ce soit indexé, que Nouvelle Donne dit que c'est possible, et tu ramènes ça à la possibilité que la Banque de France et tout ça. On voit bien que t'as un référentiel a priori étatique sur la question. Enfin, c'est bien de le savoir, peu importe, hein, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, en tant que tel, mais c'est bien
que
de.
Je veux dire quelque chose là-dessus, c'est que. Effectivement, je pars du principe qu'on ne peut pas comme ça évacuer le système financier économique actuel, malgré ses défauts. Je laisse plutôt, quand j'observe par exemple la difficulté qu'a un économiste comme Piketty à faire imposer ou à faire admettre un principe d'impôt progressif sur le patrimoine, principalement parce que justement le patrimoine financier et immobilier n'est pas connu. Donc on n'en est même pas à la question de savoir combien on impose à chacun, combien chacun participe de la société et du bien commun. On n'en est même pas à ce stade, puisque une grosse partie du patrimoine financier et immobilier mondial n'est même pas connue. Donc il y a un gros travail avant même d'aller plus loin dans des modifications ou des propositions économiques. Et Piketty s'y attaque, il a avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Voilà.
Oui, Piketty, il est bien gentil, Piketty. C'est un bon gros newtonien, si tu veux. Bon, et il ne sort à aucun moment de la monnaie unique. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit qu'en termes de monnaie. Tu sais bien que selon le référentiel de mesure que je choisis, selon l'axe de référence de mesure des choses, que ce soit les distances, que ce soit l'énergie, que ce soit l'économie, etc., c'est en fait mon outil de référentiel de mesure qui va qualifier ce que je perçois comme richesse ou pas. C'est-à-dire, donc si je choisis une monnaie qui n'est pas libre, une monnaie non libre, qui se crée au bénéfice des uns et pas des autres, et après je constate au bout de 40 ans qu'il y a des différentiels et je me dis, tiens, il faudrait que je corrige. Non, c'est pas, on corrige pas les faits. On ne corrigera jamais les faits si on ne détruit pas les causes. C'est-à-dire que pour corriger correctement une maladie, c'est pas tellement essayer de faire des saignées sur les gens qui sont malades, c'est d'essayer de trouver le principe causal qui est qu'il y a des microbes et d'inventer un vaccin contre la rage. Et le vaccin, il détruit la cause. Et c'est pour ça que là, on fait un bond en termes de médecine, parce qu'on attaque la cause. Quelle est la cause des distorsions à terme qui sont un effet sur 40 ans? Quelle est la cause? Eh bien, la cause, c'est un système monétaire asymétrique au départ. Donc ce qui convient de faire, c'est d'adopter un système monétaire qui ne le soit pas. Mais ça veut pas dire changer l'existant. On n'a pas développé les logiciels libres en faisant changer Microsoft et Apple, ni en regardant comment ils faisaient leur code, en vérifiant tout, en essayant tout. Non, ça marche pas, ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a développé des logiciels libres, point. On les a développés, on les adopte. Donc on n'utilise plus Apple et Microsoft. De la même façon, donc, pour se libérer économiquement, on adopte une monnaie libre. Mais forcément, encore une fois, je veux venir sur ce point, parce qu'on ne l'a pas suffisamment creusé, il est essentiel, c'est que dans ta proposition monétaire, quand tu dis effectivement il y aura une symétrie spatiale, et là j'applaudis parce que c'est très bien, mais qu'en est-il de la symétrie temporelle? Tu me dis donc qu'il va y avoir une assemblée qui va être déterminée, a priori tu me dis par tirage au sort, mais qui serait en mesure, une fois tiré au sort, de changer les règles même de comment cette assemblée va être modifiée, et qui a un droit de modification du code monétaire, donc a un droit de brisure de symétrie envers les générations successives qui vont adopter éventuellement cette monnaie.
Pour répondre brièvement à la question, oui, mais ce Parlement peut grossir et peut représenter. C'est à la fois un équilibre entre prendre la population entière et prendre la population des gens motivés. Donc on ne peut pas prendre... compter sur toute la population entière serait une utopie, parce que les gens ont d'autres choses à faire. Compter que sur les motivés ne suffit pas, donc c'est un moyen d'avoir quelque chose à compromis.
Oui, alors, mais entendons-nous bien, je veux dire, le mode de désignation de cette assemblée est décidé par l'assemblée elle-même. Et donc cette assemblée qui va pouvoir décider des règles elle-même, en fait c'est ça qui nous intéresse ici, la gouvernance, peu importe les moyens techniques, va pouvoir donc changer les règles de la monnaie et effectuer des brisures de symétrie envers les futurs entrants. Donc de ce côté-là, tu me dis effectivement, bon, tu respectes la symétrie spatiale, parce qu'il n'y a pas de création monétaire sans que ça soit distribué à tous, et ça, bon, très bien. Effectivement, tous, c'est les membres du système monétaire à l'instant T, hein. C'est pas forcément tous absolus, ça n'a pas de sens. Mais au fur et à mesure qu'ils rentrent, ils vont pouvoir toucher, disons, une même somme. Mais dans le temps, à long terme, il n'y a pas l'assurance de la symétrie temporelle, et en plus, cette assemblée pourra changer les règles de la monnaie, c'est ça?
Alors oui, c'est ça. Je précise quand même que sur la symétrie spatiale, il y a une forte incitation à ce que tout le monde, et pas simplement ceux qui connaissent par... c'est pour ça qu'on passe par les maires, pour inciter les habitants à leur dire, ben, vous avez, on peut vous donner de l'argent, il faut juste vous inscrire avec votre téléphone. Et il y a même une partie d'arriéré, c'est-à-dire que la personne qui se serait inscrite qu'un an plus tard, elle va recevoir la moitié des arriérés de la personne qui s'inscrit au premier jour. Donc c'est pas les arriérés totaux, complets, parce qu'il faut motiver aussi les gens à ne pas laisser traîner, mais il y a une partie d'arriéré.
Ouais.
Et alors sur la symétrie temporelle, effectivement, on n'a pas de méta-règles qui disent il faut, dans le code, qui dirait on suit les règles de la TRM avec le... indexé sur l'espérance de vie des habitants. Pour l'instant, non, effectivement. Donc on laisse... L'idée, c'est de faire comprendre faire comprendre la TRM à un maximum de personnes pour que, de façon démocratique, ils aient envie d'y adhérer. Un peu comme l'impôt, quoi.
Ouais, d'accord. Alors, tu vois, alors... Oui, alors moi, ça m'étonne pas, en fait, non, ça m'étonne pas. Mais donc, ce qui me titille un peu, tu vois, dans ta démarche, je pense qu'elle part d'un sentiment extrêmement pur et noble. Et je pense que ton idée, elle est à mi-chemin, en fait, entre la compréhension qu'on peut bâtir une monnaie numérique sans demander l'avis de personne, en gros, hein, le Bitcoin, ouais. Mais de l'autre côté, se dire, ouais, mais il y a une réalité qui fait que, alors il faudrait que l'État, peut-être plus tard, la Banque de France, cautionne un peu la monnaie, je sais pas quoi, machin. Et donc on va faire un truc entre les deux, mais qu'en fait, on sent que tu as lu un peu la théorie relative à la monnaie, tu es quand même assez d'accord avec les principes de symétrie, dans l'espace et dans le temps, puis tu les as compris à peu près, mais tu sautes pas tout à fait le pas, et tu finalement tu veux proposer quand même une monnaie intermédiaire, un peu bancale, j'ai envie de dire, sur les principes un peu comparables à ceux d'OpenUDC, sauf que ça veut s'appuyer un peu sur les mairies et pas que sur la toile de confiance. T'as l'impression que tu sautes pas tout à fait le pas, et un peu c'est ce qui te bloque pour aller vers la solution la plus, je dirais, la plus moi, j'ai envie de dire la plus parfaite, ouais, c'est-à-dire
que
la plus libre possible, que ce soit OpenUDC ou Ucoin, hein. Maintenant je parle des deux puisque les deux sont fondés sur le même principe, et que tu pourrais très bien adopter ces principes-là plutôt de t'embêter à faire un truc temporaire qui de toute façon sera balayé par une solution parfaitement libre à terme. Quand je dis à terme, le problème c'est que je parle à 20 ans ou 30 ans et je parle pas effectivement pour l'année prochaine, on est d'accord.
Alors peut-être ce qui motive, ce sont des objectifs d'implémentation à court terme, à moins de justement de 10 ans ou 20 ans, et de passer les transgressions que je fais sur la TRM, c'est dans un but d'implémenter et de tester, d'aller plus vite sur l'implémentation de cette monnaie. Quand on voit par exemple ce qu'a essayé de faire en Islande au Racoin, ils ont fait juste un drop, un parachutage de la moitié de la masse monétaire créée. Donc c'est pas du tout au niveau temporel, c'est pas du tout. Et le reste de la monnaie, j'ai pas trop compris comment ils allaient la redistribuer, les 50% restants. Donc en gros, il y a deux parachutages. Donc c'est absolument pas du tout respectueux.
Ah mais complètement, oui. Ah mais ça, très, très clairement, de toute façon, on sera d'accord, le Bitcoin, Aurora Coin et tous les coins issus du Bitcoin, de toute façon, sont pas du tout symétriques, ni dans l'espace d'ailleurs, ni dans le temps. Alors avec Aurora Coin, ils ont tenté...
Dans l'espace...
Voilà.
Pour 50%.
Ils ont tenté, voilà, exactement, tu as parfaitement compris. Avec OuroraCoin, ils ont commencé à comprendre au moins le principe de symétrie spatiale.
Voilà.
Mais ils sont pas encore allés jusqu'à le principe de symétrie temporelle, et donc on n'a pas la symétrie dans l'espace-temps. Mais alors, tu vois, ça. Et alors, bon, quand même, alors, donc, c'est là où ta démarche, forcément, quelque part, nous plaît, c'est-à-dire ton intention. Et d'aller vers une monnaie libre, mais en pratique, tu préfères te concentrer sur une monnaie intermédiaire tout en essayant de communiquer. Alors, ceci dit, Ucoin ou OpenUDC sont aussi des monnaies qui sont implémentables rapidement. Là, c'est une question de finition du code et de test. Bon, ça peut prendre du temps parce que, évidemment, moins il y a de développeurs, plus ça sera long, et plus il y en aura, plus ça sera rapide. Donc ça dépend des motivations de chacun de participer. Mais ceci dit, l'implémentation d'une monnaie OpenUDC ou Ucoin instantanée n'empêche en rien non plus à terme la Banque de France de dire cette monnaie vaut autant qu'un euro. Je veux dire, mais ça ne dépend pas de la monnaie, elle fait pas ce choix-là, elle dit c'est une monnaie numérique, si on l'utilise, alors, elle aura de la valeur. Et effectivement, au départ, elle sera soumise à des variations, et même tout le temps, toute chose est soumise à des variations de valeur relative.
C'est là où on touche au point de différenciateur et où sur lequel on n'est peut-être pas d'accord. C'est que moi, je présuppose, je me trompe peut-être,
oui, mais
l'avenir le dira,
ouais.
qu'on peut indexer avec une parité de 1 point avec l'euro. Alors, peut-être que les obstacles seront juridiques, peut-être que...
Oui, mais alors, regarde, écoute, oui, d'accord, mais si tu veux, la réflexion que je te fais, c'est que c'est pas une question d'accord ou pas d'accord. Moi, je dis pas que c'est pas possible de faire ça. Mais je dis que dans les deux cas, que ce soit ta monnaie ou une monnaie OpenUDC ou une monnaie Ucoin, qui, elle, intègre tout de suite la symétrie spatio-temporelle, cette possibilité pour une Banque de France ou une autre monnaie de dire ben nous on veut que ça soit un taux de change qu'on gère nous, cette possibilité là elle est possible dans les deux cas. Je veux dire, nous on dit pas qu'il faut pas que d'autres gens, mais c'est leur liberté à eux de le faire, c'est pas la monnaie créée qu'ils décident. Ça, c'est pas toi qui va décider d'indexer ça sur l'euro de façon certaine. C'est pas toi qui possède l'euro.
C'est l'hypothèse que je fais, que je fixe le taux de change au départ, c'est pas la BCE qui le décide. Alors la BCE va pas regarder avec des gros yeux c'est qui ce petit couillon qui essaye de mettre une parité sur un truc qui n'a aucune valeur. Et justement, ça n'a aucune valeur, mais c'est juste une ligne d'écriture cette ligne d'écriture, bien sûr, elle ne respecte pas les réserves fractionnaires des monnaies banques centrales. mais elle est relativement faible et elle a la caractéristique d'être relativement démocratique pour que la BCE dise je ferme les yeux et je... En fait, la BCE a fait des beaucoup plus gros cadeaux aux banques lors des cracks financiers. C'est l'argument un peu de nouvelle donne, de dire voilà, ils ont donné tant de milliards aux banques lors des différentes crises, ils peuvent très bien le faire pour le peuple.
C'est remarquable parce que je vois dans ton raisonnement que tu rentres dans la TRM mais sans aller au bout, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un début de compréhension. Mais c'est bien, de toute façon, on est obligé de passer par là. Tu as un début de compréhension du principe, mais tu n'es pas allé jusqu'à l'intégration sur longue période. C'est-à-dire que si tu vas sur l'intégration sur longue période, tu comprends qu'il n'y a pas d'autre solution que de créer un dividende universel dès le départ, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas attendre que les problèmes apparaissent.
On veut le créer sur Mars, on veut le créer sur la Terre. Et donc pour le créer.
Mais quelle différence tu vois avec Ucoin ou OpenUDC qui va se développer demain, où les gens vont signer et vont se créer un dividende universel et automatique? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Si on décide, si ces gens qui vont. En plus, c'est un logiciel, donc n'importe qui pourra créer sa monnaie. Donc le mec qui va utiliser OpenUDC ou la communauté qui va utiliser ça et décrète que ben, nous, notre monnaie, elle vaudra aussi 1 euro pour un dividende. Un dividende vaudra 1 euro ou 100, bon, peu importe. On va décréter ça, ils feront la même démarche que toi. Ça ne dépend pas du logiciel, ça. Ça dépend de facteurs extérieurs.
Mais ça dépend de l'acceptation du réseau des communes de France.
Exactement. C'est pour ça, ça ne dépend pas du logiciel. Donc... on ne voit pas pourquoi créer... on peut, de toute façon, c'est sûr, on peut avoir autant de logiciels que de développeurs. Hein, c'est possible aussi. Ça, c'est la liberté des développeurs. Et ton, alors, tu me dis ton code, lui, il est au point, il est fini. On peut le trouver quelque part
Alors, ce qu'il faut distinguer, c'est qu'il y a, il y a un client, le nœud que, oui, il est disponible en Python sur GitHub. Par contre, il y a un certain nombre d'évolutions qui vont continuer à... notamment au niveau du réseau peer-to-peer. Hein. Pour l'instant, les nœuds, ils sont un peu bébêtes, hein, c'est-à-dire qu'ils font ils copient un peu comme fait Bitcoin, hein, c'est-à-dire ils copient la chaîne des transactions bêtement, entièrement. On peut avoir quelque chose de plus intelligent qui ne va copier qu'une partie, faire une hash table, une table de hachage qui soit plus intelligente en fonction de la proximité des transactions. C'est-à-dire que si moi, j'ai aucune transaction avec, par exemple, des Japonais, mais là, je parle, des gens, par exemple, dans la France, revenons en France, avec des gens à Lille, je vais pas avoir les transactions des gens de Lille dans mon nœud sur ma box locale.
Alors, ceci dit, dans OpenUDC Ucoin, c'est pas les transactions qu'on stocke, hein, c'est uniquement la monnaie. C'est-à-dire qu'il y a la monnaie, le propriétaire actuel et le créateur original.
Et c'est peut-être aussi une différenciateur. Alors, j'en ai discuté un peu avec c'est Cédric.
Ouais.
Ouais. Justement, dans Eurofranc, il n'y a pas du tout cette notion de monnaie numérique. Il n'y a que des écritures. On vérifie simplement ce que fait le système, c'est qu'il donne simplement un accord vrai ou faux sur une autorisation de chèque électronique, c'est-à-dire la signature d'un montant d'une personne, d'un émetteur vers un destinataire. En fait, il vérifie simplement que le solde des créditeurs de l'émetteur.
Oui, mais tu vérifies qu'il y a de la monnaie, quoi. Vérifier qu'un
solde
des créditeurs...
Mais
vérifier qu'un solde des créditeurs, ça revient à dire qu'il y a des unités monétaires disponibles. Voilà, c'est tout. Quelle est la quantité monétaire disponible qu'on peut dépenser en tout dans la communauté monétaire? Ça te donne la masse monétaire. Que ta somme des comptes soit nulle ou pas, ça change rien. Encore une fois, c'est un changement de référentiel. Dire que j'ai des comptes à zéro avec une possibilité de moins 100 chacun, c'est pareil que de dire tout le monde a 100. C'est exactement la même chose. Je vais pas te faire le coup des degrés Celsius et des degrés Kelvin. Enfin, je veux dire quand même.
Non, mais il y a des problèmes qui se posent pas, comme le double paiement ou le fait que quand tu fais un chèque électronique, quand tu fais simplement une signature électronique d'un montant avec une date donnée, voilà, il n'y a pas de problème de double paiement.
Le problème de doublement, il est résolu complètement par OpenUDC Ucoin. C'est pas un problème.
Oui, bon, mais peut-être. Bon, mais non, mais parce qu'il y a des... Bon, et il n'y a pas le problème que attacher les transactions à des blocs minés, parce que là, il n'y a pas de minage. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de minage, toute transaction est autorisée. Toute transaction est autorisée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire comment on se protège du spam, mais il y a des protections de spam qui fait que, en fait, si quelqu'un s'amuse à faire le ping-pong entre deux de ses comptes pour spammer, pour faire du déni de service sur le réseau, en fait, il ralentit ses propres comptes, c'est-à-dire ses transactions.
Ça c'est l'aspect technique, à la limite ça nous intéresse moins, même si tu as bien fait d'en parler, hein, ça nous intéresse quand même aussi, hein, on fait parfois des émissions pour parler de la technique, bon, mais là je voulais plus m'intéresser au code.
D'accord.
Je crois qu'on a compris, encore une fois, je pense que la démarche est intéressante, elle part d'une intention tout à fait louable et noble, je pense qu'elle intègre, donc, mais tu l'admets toi-même, donc il n'y a pas de problème, effectivement, elle n'intègre pas toutes les symétries, notamment elle n'intègre pas la symétrie temporelle. Bon, le mode gouvernance aussi, je pense qu'Étienne Chouard, vu qu'il y a une gouvernance... Alors, dans OpenUCUCON, il n'y a pas de gouvernance à proprement parler. Il y a un code et un mode de fonctionnement qui est déterminé. Oui, alors, pour finir, puisqu'on va arriver à la fin de cette émission, Laurent, est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site où on peut trouver l'ensemble des éléments? Alors, CUP Foundation, pour dire rapidement, bon... c'est aussi un procédé de calcul des prix, en gros, qui n'a pas de lien forcément direct avec la monnaie, mais tu veux aller vers cette solution-là. On peut dire juste quelques mots en 30 secondes, je vais le dire, hein, parce qu'on en a parlé un peu avant. Bon, en gros, tu proposes que les biens immatériels, comme ils sont inconnus de diffusion, etc., qu'ils soient payés non pas comme les biens matériels, mais plutôt en visant un prix final total, qui est payé par l'ensemble finalement des acheteurs successifs dans le temps, et sachant que les premiers acheteurs seront en partie remboursés de leur achat, ce qui fait qu'à la fin tout le monde aura payé la même petite part pour que le créateur y touche le prix global finalement qu'il visait. Donc il vise un prix global et non pas un prix unitaire.
Oui, c'est ça, sauf que deux petites remarques, c'est tout le temps tout le monde aura payé la même chose, c'est pas que à la fin, et c'est pas que les premiers qui seront remboursés, c'est tous les acheteurs sont toujours remboursés par des micro-remboursements, de telle façon d'avoir toujours cette règle que tout le monde paye à chaque moment la même chose. Et deuxièmement, c'est quand même un principe, faudrait pas le minimiser, mais c'est un principe de prix, une relation 1N, qui est toute nouvelle et qui remet en cause toute l'économie. Hein. Quand on vendait ou achetait quelque chose, c'était une relation 1-1. Et là, on part sur un autre paradigme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous invite à aller voir sur argviv.org ou d'autres sites ou sur HAL, Laurent Fournier, par exemple. Vous trouverez le papier avec tous les détails théoriques. Mais c'est quand même un changement économique assez fondamental. Donc cette relation 1N qui est liée à l'existence de l'internet et surtout au fait que ce sont des biens immatériels à coût marginal nul, vraiment
oui.
Nul.
Alors je croyais en compris ça, mais je peux pour résumer peut-être pour les auditeurs aussi, bon, pour dire quand même que cette histoire de CUP Foundation, c'est pas une théorie monétaire, mais c'est plutôt une théorie des prix. Voilà, donc c'est une théorie des prix.
Oui, c'est une nouvelle définition de prix.
Voilà, c'est une définition de prix, mais ça ne dit pas grand-chose sur la monnaie elle-même qui va permettre à ce système de se déployer. C'est-à-dire que ce système dépend finalement d'une monnaie préétablie par ailleurs. Disons, voilà, donc du coup ça sort un peu de notre sujet. C'est juste pour dire voilà, que c'est vraiment un sujet un peu différent. C'est une théorie des prix bon, qui est intéressante, qui rejoint un peu oui, des raisonnements qu'on peut faire. Bon, là encore, je pense qu'il manque une dimension. Je peux pas développer trop ici, mais
oui, je peux pas expliquer en 2 minutes. Là,
voilà. Mais ceci dit, bon.
Derrière.
Mais par contre, faut juste noter que c'est un modèle incitatif. Là encore une fois, c'est pas un modèle obligatoire. C'est un modèle incitatif. Bon, qui peut être adopté par des gens qui l'adoptent librement. Encore une fois, bon, mais c'est encore autre chose. Voilà, très bien. Alors, ben merci Laurent. Est-ce que une adresse de site sur lequel on peut retrouver tous ces liens?
Alors, normalement, sur eurofranc.fr, alors là, pour l'instant, il y a juste l'adresse sur eurofranc.fr, vous avez juste un accès, alors c'est un Raspberry Pi derrière, donc n'y allez pas à 100 000 personnes, mais il va y avoir, là, pour l'instant, c'est l'adresse des relevés de compte, hein, pour les gens qui sont déjà inscrits, mais je vais rajouter de la documentation prochainement, et puis il y a mon blog WordPress sur CUP Foundation qui contient des éléments d'information, notamment une FAQ sur Eurofranc, une FAQ, pardon. Voilà, où vous trouverez des informations. Mais tout ça, ça va changer dans les prochaines. Mais l'adresse, c'est Euro qui est prise, qui a été réservé, c'est eurofranc.fr.
D'accord, donc sur eurofranc.fr, on pourra, peut-être pas tout de suite, mais retrouver les liens. Voilà. Alors, pour Cup Foundation, pour ceux que ça intéresse, cette théorie des prix, en fait, et puis pour Eurofranc, des informations sur ces modalités.
On peut m'envoyer un mail à contact@eurofranc.fr ou voilà. cupfoundation.net.
Voilà, donc, donc on comprend voilà, que c'est un... c'est un modèle un peu particulier. Je crois qu'on a vu les dimensions. Il y a une dimension politique qui existe. Il y a une dimension de vouloir s'inscrire dans le court terme, de penser à la symétrie temporelle pour plus tard et donc de ne pas l'intégrer directement. Une dimension OpenPGP qu'on retrouve dans OpenSU Coin, mais sans la toile de confiance, puisque c'est plutôt les mairies. Donc cette dimension politique qui ferait le lien, bon, on comprend, je crois c'est important de comprendre, et puis comme ça l'individu qui comprend ben, peut choisir. Donc merci Laurent
merci, Stéphane, de
ton temps pour avoir expliqué cette approche, ce point de vue sur la monnaie, sur les prix, sur la possibilité d'installer un eurofranc sous certaines conditions qu'on a, je pense, ici un peu éclairées. Voilà, donc je vous donne moi rendez-vous pour une prochaine émission de Monnaie Libre, bien sûr, et je vous laisse avec notre générique fétiche No More Dreams de Nighter. À bientôt, au revoir.
Au revoir, salut Stéphane. We'll be right back.